Champfleury, les trouvailles de Monsieur Bretoncel. Le célèbre agent de change Bretoncel était un amateur de haute curiosité. On entend par là des curiosités qui ne sont pas toujours curieuses, mais leur prix élevé donne à croire aux gens qui s'en rendent acquéreurs que par là, ils offrent quelques ressemblances avec les Médicis. Et aussi, entassant dans leurs salons qui ressemblent à des boutiques de bric-à-brac, émaux, jade de Chine, arbres damasquinés, cristaux vénitiens, ils se regardent comme des protecteurs de l'art. Pendant l'automne, M. Bretoncel passait un mois de vacances dans une riche propriété sur les bords de l'Oise, et son temps n'était pas inoccupé. Là, comme à Paris, la manie des curiosités ne le quittait pas. Il courait les environs à pied, et les objets que certainement il n'eût pas regardés à l'hôtel des ventes lui semblaient merveilleux lorsqu'il les trouvait en furetant. Un chasseur qui ne rapporte rien dans son carnier tue un moineau de buisson, se fait abréter à déjeuner, et le trouve meilleur qu'une bécasse. Il en est de même du collectionneur. Un jour, l'agent de change avait ainsi battu tout le pays pour la grande fatigue de ses jambes qui demandaient grâce. Il était 5 heures du soir. M. Bretoncel rentrait mélancoliquement au logis, les mains vides. Lorsqu'à la porte d'un cabaret, il avisa un dressoir chargé de vaisselle grossière. Aussitôt, voilà un homme en arrêt, regardant si quelque objet précieux ne se cache pas dans la pénombre. « Entrez, monsieur, » dit la cabaretière, qui, voyant un homme fatigué, lui offre une chaise. Au lieu de se reposer, M. Bretoncel fait le tour de la salle, jette un regard ardent sur chaque coin enfumé, et enfin s'arrête devant le manteau de la cheminée où était pendue une vieille écumoire. L'agent de change la décroche, la tourne, la retourne, et regarde au jour cette passoire d'un médiocre intérêt, sauf que les trous, par une ingénieuse disposition, formaient le nom et la date de 1749. « Combien vendriez-vous cette écumoire ?» dit-il. La cabaretière se fait d'abord prier. L'objet vient de sa grand-mère et il lui coûte de s'en défaire. Mais comme M. Bretoncel insiste, moyennant 10 francs, il devient possesseur de l'écumoire, qu'il étudie plus à l'aise, assis sous le manteau de la cheminée, frottant le cuivre pour lui rendre son aspect primitif. 2 paysans étaient attablés dans le cabaret devant un pichet de cidre, causant de procès, de fermage et de récolte. Qu'est-ce qu'il veut, cet homme-là ? Demande l'un d'eux à la cabaretière, qui répond qu'elle vient de céder à un chercheur de vieillerie une passoire pour une bonne somme qui lui permettra d'en acheter une neuve avec une paire de poulets par-dessus le marché. Oh, si c'est ça, dit le paysan en élevant la voix de façon à se faire entendre, M. Bretoncel. J'ai à la maison une fameuse antiquité. Antiquité ? L'agent de change dresse les oreilles et demande au paysan de quoi il s'agit. Bon, c'est pas davantage. Les enfants ont trouvé l'objet dans le grenier et je vous garantis qu'il y était depuis bel âge. Grenier, longtemps, sont les seuls mots qui frappent tout amateur. M. Bretoncel presse de questions le paysan. « Bon, tout ce que je peux vous dire, monsieur, c'est que ça brille et qu'il y a comme un ange doré et de l'écriture dessous. Brille, écriture, ange doré, s'ajoutent à grenier et longtemps et fournissent un fond d'induction qui peuvent mettre sur la trace d'un objet précieux. » L'agent se change, se lève, promène ses inductions et n'en tire à rien, se rassied. Que représente cet objet ? Heureusement, il n'y a pas de maître d'école dans nos contrées, sans quoi je me suis déjà dit que je vous aurais donné l'écriture à déchiffrer. Est-ce un tableau ? Oh, c'est un tableau sans lettres, pour sûr, il y a du métal.
Du métal ? S'écrie l'agent de change en ouvrant de grands yeux comme pour apercevoir l'objet. Est-ce grand ?
Oh, ni trop grand, ni trop petit.
Enfin, de quelle taille à peu près ?
Monsieur, sauf votre respect, comme le cul d'une casserole.
Là-dessus, le paysan se lève et endosse sa carnassière.
Vous partez déjà, mon brave homme ?
Ben, j'ai une lieue avant d'arriver à la maison.
On vous accepterait bien un verre de vin pour vous donner des jambes.
Oh, c'est pas de refus, monsieur.
La bouteille sur la table.
Vous dites qu'on remarque de l'écriture et un ange.
Attendez, je me rappelle maintenant. L'ange joue de la musique. Il souffle dans une trompette.
Sujet religieux, se dit l'agent de change, avec légende explicative.
Il se lève, décroche une casserole et la porte sur la table.
L'objet est donc de cette taille ?
Bon, juste, monsieur, sauf que le dessus est pas plat, il est comme bombé.
Et sans doute creux en dessous, reprend monsieur Bretoncel.
Ma parole, vous parlez comme un sorcier ?
L'agent de change à peine à cacher son émotion. Sa respiration est oppressée, son cœur palpite, ses mains tremblent. Il n'y a pas à en douter, il s'agit d'un émail. Aussitôt, un inventaire sommaire se fait dans le cerveau du collectionneur. L'objet gît dans un grenier où il était caché. Il y a bel âge, suivant le mot du paysan. Donc il est très ancien. Il brille. Un ange sonnant de la trompette est représenté avec une légende dorée en exergue. Et le métal est à la fois concave et convexe. C'est assurément un merveilleux émail provenant d'un ancien château ou de quelque couvent des environs. Quelle gloire de tirer de l'obscurité un admirable ouvrage de Léonard Limousin ou de Pierre Courtois. Pourtant, il faut cacher toute émotion, de peur que le paysan ne s'en aperçoive. Ces genres de campagnes sont si retors. M. Bretoncel est sur le point de faire un cours. Oh, des palpitations l'en avertissent.
On peut voir cet
s'écrie l'agent de change, faisant rentrer violemment la dernière syllabe dans son gosier.
Oh, monsieur l'a vu, n'en coûte rien. Vous pourrez même, le jour qui vous plaira, vous donner la satisfaction de voir mes bioches faire la dinette dedans.
Les scélérats ! S'écrie monsieur Bretoncel.
S'il vous plaît ?
Comment vous laissez des enfants jouer avec un tel objet ?
Ben, il faut bien que les mioches s'amusent.
Mais déjà n'ont-ils pas détérioré cet
Oh, il est solide, le vernis le protège.
Consentiriez-vous à me céder cette antiquité ? Dit l'agent de change.
Je dis pas non, monsieur. C'est les enfants qui tiennent le plus.
J'ai presque envie de vous accompagner.
Avec plaisir, monsieur, il n'y a qu'une lieue.
Madame, dit l'agent de change à l'hôtesse, « Servez-nous 3 petits verres d'eau de vie, de votre meilleur. » Comme il s'agit de se mettre tout à fait dans les bonnes grâces du paysan, M. Bretoncel boit l'eau de vie, non sans grimace, et trinque avec l'homme. On se met en route. Mais à 10 pas de la porte, le paysan revient sur ses pas sous prétexte de chercher sa pipe.
« Sans indiscrétion, la mère, » dit-il à l'aubergiste. Combien le bourgeois a-t-il payé l'écumoire ?
Ben voilà la pièce, dit la femme en tirant de sa poche les 10 francs.
Bon, s'écrie le paysan, qui, ayant allumé sa pipe, revient à l'air indifférent vers son compagnon de route en envoyant de grosses bouffées de fumée.
On parle des enfants. L'agent de change questionne sur leur âge, leur sexe. Et comme en ce moment on passe devant l'épicier du bourg, M. Bretoncel prie l'homme de l'attendre, entre dans la boutique et en ressort quelques instants après, chargé de poupées, de polichinelles, de sacs de bonbons. Comme vous voilà harnaché, monsieur, dit le paysan, ces joujoux-là vont vous gêner pendant la route. Votre petite fille m'intéresse, répond l'agent de change, et je me fais un véritable plaisir d'offrir ces jouets à vos enfants. Vous allez leur faire l'effet du bon Dieu, ma parole. Les enfants de chez nous sont point habitués à de pareilles largesses. Et pendant une demi-heure, la conversation roule ainsi sur des matières indifférentes. M. Bretoncel affecte ne pas parler du hasard qui, en le jetant sur la trace d'une merveille, l'a conduit par les chemins chargés de paquets de toutes sortes. Cependant, de temps en temps, il revient à l'objet de sa recherche. Vous ne craignez pas de laisser manger vos enfants dans du cuivre ? Puisque je vous le dis, monsieur, que le creux est verni comme le dessus. C'est bien un émail, se dit l'argent de change. Tout au loin brillent à travers les peupliers les toits d'ardoise d'un corps de ferme. Le cœur de l'agent s'épanouit. Encore une portée de fusil et la merveille apparaîtra à ses yeux. Ben, c'est point là notre village, dit le paysan. Nous sommes encore qu'au bourg où nous nous approvisionnons. Monsieur Bretoncel pousse un soupir. Les paquets de poupées de sucreries commencent à l'embarrasser. Et il faut les porter à des morveux qui ont peut-être endommagé un précieux objet d'art. Mais la dissimulation est nécessaire pour arriver à la possession, et l'agent de change refoule au fond de lui la gêne qu'il éprouve. Les voyageurs traversent la place du bourg, où un gros bar en soie se détache de la façade d'un magasin de cotonnade. « Ben, c'est pourtant ici, dit le paysan, que ma femme m'avait recommandé de lui acheter une robe. Malheureusement, il y a eu du tirage au marché aujourd'hui. Bon, les grains sont en baisse. Ce sera pour une autre occasion. » L'appel à la générosité du collectionneur est clair. Mais les femmes sont dures en affaires et il est bon de les amadouer. « Grossi, une robe peut être agréable à votre ménagère, dit Bretoncel, qu'à cela ne tienne. » En même temps, il entre dans la maison du grand bas bleu, et d'un geste désignant une étoffe à l'étalage. « Montrez-moi cet émail, dit-il. »« Émail ? » répète la marchande étonnée. « Hum, hum !» fait l'agent de change, effrayé, regardant si son compagnon ne l'a pas entendu. Mais le paysan est assis sur le pas de la porte, rêvant au hasard qui lui a fait rencontrer une telle vache à lait. M. Bretoncel, l'étoffe coupée, sort avec un nouveau paquet sous le bras en disant « Si mes confrères de la bourse me voyaient dans cet équipage... » La passoire de cuivre est accrochée à un bouton de la redingote. Les paquets de bonbons sortent à moitié des poches. Les deux mains retiennent des poupées et des polichinelles et sous le bras gauche, l'agent de change porte la robe enveloppée. Le paysan offre de le décharger de la moitié de ses paquets. Mais M. Bretoncel, par une superstition commune aux collectionneurs, n'y peut consentir. Il ne peut faire aucun mouvement de bras, sa marche est gênée. Mais cette gêne et cette contrainte ne sont pas sans charme. Par là, l'amateur se souvient à chaque pas qu'il marche à la conquête d'une merveille. Si ses nerfs en souffrent, l'émail reluit d'un plus vif éclat dans le lointain. M. Bretoncel pense au duc de Coyon-la-Tour, qu'il a rencontré dans les rues de Paris, portant sur ses épaules un énorme buste en marbre qu'il venait d'acquérir, Et il se dit que lui aussi, pour marcher sur les traces d'un collectionneur illustre, doit porter la croix de la curiosité.
« C'est une chance tout de même de vous avoir rencontré, monsieur, » dit le paysan. « Tous les gens de la ville ne sont pas si généreux. »
« Le chemin est-il encore bien long ?»«
Bon, dans une petite demi-heure. »«
Mais voilà 2 heures que nous marchons. »
« Eh, monsieur, je vous avais bien prévenu qu'il y avait une bonne lieue. »«
Une bonne lieue ?» s'écrie M. Bretoncel effrayé. « Car si une lieue de paysan en vaut 2, combien peut représenter une bonne lieue ?»«
Patience, monsieur. Ah, nous voilà bientôt au Quercy. Vous voyez le clocher ?»«
Ah oui, » s'écrie le boursier. « Ce clocher tout là-bas. »
Bah, après le Quercy, en forçant le pas, il n'y a pas plus que pour un gros quart d'heure.
À ce mot de gros quart d'heure, M. Bretoncel manque de laisser tomber tous ses paquets sur la route.
Heureusement, dit le paysan, nous allons trouver à la porte du Quercy une auberge où on vend du petit blanc sec comme une pierre à fusil qui rendrait les jambes à un moribond.
Grâce à un violent effort, l'agent de change arrive à l'auberge où il jette sur la table poupées, polichinelles, passoires et robes.
« Vous êtes en retard aujourd'hui, monsieur Roux, » dit la cabaretière au paysan. « La nuit va vous surprendre avant d'arriver. »«
Nous avons causé avec monsieur, » dit Sureau.
« Décidément, » dit M. Bretoncel, éclatant, « combien faut-il de temps pour arriver chez vous ?»«
Bon, traversant le Quercy dans toute sa longueur, serions chez nous pour le souper. Mais je dois vous dire... »
Sureau se grattait le front. « Parlez ?»«
Ben, c'est que je suis obligé de faire un détour dans les terres. »«
Dans les terres ?»
« Sans doute, oui, le pavé est préférable, mais au milieu du village, il y a la maison d'un gardien, gredin de juge de paix, qui me donne des tremblements de colère quand je passe devant. Alors, certainement, ce chemin-là raccourcirait la route de 20 bonnes minutes. »«
Oh, il faut le prendre !» s'écrie M. Bretoncel, « partons !» Et il endosse ses paquets.
« Mais si le gardien de juge est devant sa porte, je réponds pas de moi. » Il arrivera un malheur que vous vous reprochez toute votre vie.
Mais de quoi s'agit-il ?
Ben pour vous dire la vérité, monsieur, voilà ce que c'est en 4 mots. J'étais en retard d'une petite amende de 18 francs. Croiriez-vous que le gardien m'en a déjà couché sur son lit pour 6 francs 5 sous de frais, quoique j'ai raison ? On est un homme, on l'est pas. Je peux pas voir le gardien en peinture. Et voilà pourquoi je fais une demi-lieue de plus tous les soirs pour ne pas le rencontrer.
Une demi-lieue de plus, dit M. Bretoncel.
Allez payer vite, mon brave, tenez voilà 40 francs.
Pendant que le paysan rentre chez le juge de paix.
Émaille, crie l'agent de change à plusieurs reprises.
Comme un ivrogne qui se gorge de vin à un tonneau pendant l'absence des propriétaires, M. Bretoncel prononce le plus souvent qu'il le peut le mot qui ne doit plus sortir de sa bouche jusqu'à la conclusion du marché.
« Je l'ai payé !» s'écrie le paysan, qui revient radieux de la justice de paix. « Mais je me suis donné le plaisir de dire au gardien ce que je pense. Voilà le papier acquitté. » « Oh, les frais de justice, ça court plus vite qu'un lièvre !»
Si le paysan montre la facture, il ne montre pas la monnaie de la pièce de 40 francs. Mais M. Bretoncel se dit qu'il tient la femme, le mari, les enfants, et qu'il n'y a plus à revenir sur le marché. La dernière traite est dure. La nuit vient petit à petit. Monsieur Bretoncelle tire sa jambe. Une dernière fois, il appelle à son aide le mirage de l'émail. Enfin, mourant de faim et de fatigue, l'agent de change arrive à la maison du paysan.
Hé, hey, femme, où es-tu? Voilà une robe que monsieur t'a apporté en cadeau.
Une grande femme, maigre, ose à peine jeter un regard sur l'étoffe qui lui semble plus brillante que tous les tissus de l'Inde.
Eh ben, tu dis rien? Remercie donc monsieur et donne-lui donc un banc, il est un peu fatigué.
Bon, ce n'est pas la peine. Non, non, voyons cet l'objet en question.
Oh, c'est juste, où est-il? Les mioches auront emporté l'écuelle dans le dos au clos. Ma femme, va donc chercher l'antiquité avec quoi les enfants s'amusent. Monsieur est venu de la ville pour voir.
La femme reste clouée contre le mur.
Ben, c'est quoi, dit-elle, je l'ai donné aux bêtes.
Un émail aux bêtes? S'écrie M. Bretoncelle, perdant tout son sang-froid.
Ben, tout le vent plus la querine des cochons, dit la femme, je leur ai taillé des pommes de terre dans l'écuelle.
Mais ils auront altéré les mailles avec leurs groins, s'écrie M. Bretoncelle. La fermière semble interdite.
M'allume le crasset, femme, qu'on aille voir à l'étable.
La porte de l'étable est ouverte. Les cochons poussent des grognements. Le paysan les bourre de coups pour les écarter de leur plâtrée.
Voilà l'antiquité, dit l'homme après avoir jeté la rondelle de pommes de terre qui l'emplissent.
Ça? S'écrie l'agent de change avec un cri de stupéfaction.
L'émail tant convoité est une plaque d'assurance. Verni, doré, avec une renommée dorée, des lettres au-dessous, bombées extérieurement, creusées intérieurement.
Tous les caractères dont M. Bretoncelle avait inféré qu'il s'agissait d'un émail sorti des fabriques de Limoges.
C'est en de telles circonstances que les amateurs reviennent au logis, l'oreille basse, l'œil morne, honteux, brisé de fatigue, sans illusion, pour oublier la longueur de la route.
Et c'est ainsi que revint M. Bretoncelle, regrettant ses cadeaux et ses largesses.